Bonjour à tous, c'est le Comics Weekly numéro 6 et je suis avec Steve.
Salut à tous.
Bonjour Steve, et je suis Monsieur Oney Bunny, vous me connaissez. Donc un Comics Weekly numéro 6, comme chaque semaine, on va vous parler des sorties qu'on a sélectionnées en VO. Donc on a du Marvel, du DC, je crois que c'est tout d'ailleurs.
Et ce sera tout, ouais. Pour cette semaine, c'est tout. Que Marvel et DC.
Bon alors, tous dans la machine à déplacement direct, allez Steve, à la DD mobile. Hein. on va aller chercher nos comics maintenant aux États-Unis. Allez hop, c'est parti. Et on commence avec des news du coup, pendant le trajet.
Oui, une petite news pour Mark Waid cette semaine, qui a été nommé, ou alors je ne sais pas si c'est lui qui a décidé de prendre la place, mais en tout cas, il va remplacer Guillermo del Toro au Hero Initiative Board, c'est-à-dire ceux qui dirigent un petit peu cette association de la Hero Initiative qui vient en aide aux anciens créateurs de comic book qui n'ont pas forcément l'argent pour faire des opérations. Enfin, c'est surtout ceux qui ont des problèmes de santé.
Ouais.
Comme on a eu par exemple, je crois que c'était Denny O'Neill, mais je veux pas dire de bêtises, qui avait eu un problème aux yeux et grâce à Hero Initiative, il a pu obtenir l'opération qui améliorait sa vue.
D'accord.
Donc il remplace Guillermo del Toro dans ce comité. Parce que Guillermo del Toro en ce moment est débordé de projets, il n'a plus du tout le temps de s'occuper de l'association et donc il fallait absolument quelqu'un pour le remplacer. Et c'est Mark Waid qui s'est proposé. Mark Waid qui continue de faire des projets dans tous les sens et apparemment il n'est pas débordé. Donc, tant mieux pour lui, hein, c'est bien.
Bah oui, tant mieux pour lui. Et puis tant qu'il nous fait du bon travail aussi sur les scénarios.
Bah voilà, enfin c'est presque. Même si Hero Initiative est vraiment, vraiment, vraiment une association très 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 bien, quoi. Je veux dire, voilà, faudrait pas que ces scénarios en pâtissent. Ce serait quand même dommage. Mais bon, on peut lui faire confiance. Il tient un rythme effréné déjà depuis maintenant un ou deux ans à écrire des séries dans tous les sens et il continue toujours aussi bien. Donc, c'est pas un petit projet de plus qui va le déranger. Ça lui fera juste quelques réunions supplémentaires à faire.
Voilà. Bon, encore un débordé, quoi, un peu comme nous en fait. Alors t'en parlais il y a justement deux semaines, je crois. Et ben maintenant, c'est au tour de DC de se lancer dans les comics digitaux.
Oui, on en parlait dans le dernier Comic City, le numéro 33 sur la première fournée des sorties du mois de juin. Et je disais justement que DC n'avait toujours pas sauté le pas pour les comics digitaux. Et ben voilà, maintenant c'est fait.
Ben voilà, t'as été entendu, Steve. Comme quoi, t'as vu ? Les gens nous écoutent.
Ouais.
DC nous écoute. Ils se sont dit, oh là là, Comics Weekly, ils ont raison, ou Comic City, ils ont raison. Vite, vite, il faut qu'on se lance dans les comics digitaux. Et ben voilà.
Donc voilà, c'est fait. Ils passeront par l'application Comixology. Donc l'application que la plupart des publishers comics utilisent en fait pour promouvoir leur série.
Ça, c'est pas trop surprenant.
Ouais, voilà. Et petite révolution, en tout cas, selon DC et dans le milieu, c'est que les auteurs des comics seront rémunérés, auront des royalties sur chaque comics téléchargé. C'est-à-dire que si vous achetez, par exemple, le Batman 700, Grant Morrison et les artistes, enfin les dessinateurs qui ont participé à ce Batman 700, toucheront des petites royalties sur chaque comics vendu.
D'accord.
DC clame être les premiers à faire ça, ce qui, je crois, est vrai. Bon, je veux pas trop m'avancer, mais voilà. Ce qui n'est pas du tout du goût de Marvel, qui eux étaient les premiers quasiment à se lancer dans l'aventure digitale, avec notamment l'arrivée de toutes ces apps pour l'iPhone et principalement l'iPad. C'est vrai que le confort de lecture sur un iPad est quand même nettement meilleur que sur un iPhone.
Ah oui, ouais.
C'était net. Et donc, la guerre est lancée entre les deux à nouveau, avec une petite réponse, mais alors toute petite, hein. Marvel a répondu sous forme de tweet. C'est CB Cebulski qui s'en est chargé en répondant. Une simple phrase. Non, DC ne sont pas les premiers à rémunérer les artistes sur les comics digitaux. Point. Voilà.
D'accord.
Donc, bon.
Très bien.
On verra ce que ça va donner dans les semaines à venir, mais voilà, la guerre entre les deux grosses maisons est un peu relancée, cette fois-ci du côté des comics digitaux. Mais c'est bien que DC donne enfin une partie de son catalogue, sur toutes ses apps, parce que franchement, ça manquait. Et, je pense que pour eux, c'était aussi un manque à gagner financier, puisque les comics digitaux marchent plutôt bien.
En fait, on va se rendre compte que DC ne sont pas les premiers, puisque Millar touchait déjà toutes les royalties sur ses comics digitaux depuis bien longtemps. Non, mais j'en sais rien. En fait.
Je pense que des boîtes comme IDW, comme, comme Image ou enfin tout ce qui fait un petit peu des choses en creator-owned comme ça devait sûrement reverser la majeure partie, ou en tout cas une bonne partie, aux auteurs. Donc est-ce vraiment les premiers? Ça, je peux pas le certifier, mais bon, voilà. En tout cas, ils clament l'être.
D'accord. Ok.
Alors,
En
c'est
tout cas,
vrai que
c'est un
ça.
gros coup de pub pour eux et puis
Voilà.
ça lance
C'est
avec
un.
force
Ouais.
leur
Bah
arrivée
oui,
sur les
c'est ça.
comics digitaux.
C'est un bon coup marketing. Reste à voir si ce n'est qu'un coup marketing ou non.
D'accord. On poursuit avec DC.
Ben
Si t'as
oui,
rien à ajouter
allons-y.
là-dessus. Paul Cornell. Paul Cornell devient exclusif chez DC pour 2 ans. Et en plus, le scénariste annonce donc un crossover entre Action Comics et Secret Six.
Qui risque de donner quelque chose d'assez intéressant.
Ouais, d'autant que Secret Six, il paraît que c'est pas mal du tout. Alors, bon, je ne sais pas si on l'aura un jour en France, cette série. Je pense pas,
Ou
malheureusement.
je pense pas non plus, non.
Mais enfin voilà, quoi, c'est une série à surveiller. On vous en parle sans doute dans les prochains numéros de Comics Weekly, j'imagine.
Bah, quand ça sortira, oui, il y a des chances, oui, puisque bon, bah, on y reviendra tout à l'heure quand on abordera la double review, mais Action Comics change légèrement de direction, et avoir un crossover entre Action Comics et Secret Six, c'est pas forcément très 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 étonnant, au
Oui,
final.
ça pourrait être pas mal. On passe à Marvel.
Allons-y.
Alors, avec en octobre une mini-série sur Hercule. Étonnant, d'ailleurs. Parce que
Ben
comme
oui.
tu disais, Hercule a disparu. Donc
Ben oui, il est censé être mort.
voilà. Donc je sais pas si c'est une série qui se situe dans le passé ou si c'est dans le présent, mais en tout cas, c'est une série en 5, baptisée Chaos War, et ça verra le retour du God Squad. Voilà.
D'accord.
Et c'est écrit par Fred Van Lente et on retrouve comme artiste Coy Pam ou Coy Femme, d'ailleurs je ne sais jamais si c'est Coy Pam ou Coy
Mais
Femme.
moi, c'est vrai que j'ai tendance à prononcer Koi Pam, mais c'est peut-être Koi Femme. Ouais.
Bon bah voilà, ça pourrait être intéressant sur Hercule, en tout cas ça fait plaisir de le revoir. Toujours chez Marvel, c'est la mode des variant covers. Bah c'est la mode des variant covers, en fait c'est la mode depuis 10 ans des variant covers. Mais en ce moment, les variant covers, c'est surtout avec des femmes,
Mais
des héroïnes.
chez Marvel, on a tendance à faire des mois variant cover avec des thèmes. C'est-à-dire qu'on avait eu un mois où on avait eu plein de covers sur des thèmes avec les grands peintres. On en avait eu d'autres où c'était Deadpool qui prenait toutes les variantes cover et on voyait Deadpool partout, dans tous les titres, même dans lesquels il n'apparaissait pas, bien sûr. On avait eu aussi Marvel qui célébrait les décennies, notamment avec des covers reprenant des grandes icônes pop des années 90, 80, 70, enfin chaque décennie comme ça. Donc là maintenant, apparemment, ce serait des femmes.
Oui, puis enfin, il y avait aussi eu les Marvel Zombies, bien entendu, aussi
Ah oui, effectivement, oui, j'avais
pendant
oublié.
longtemps. Ou les Marvel Apes même, parfois.
Mais ça,
Le
c'est une.
fameux Marvel Apes.
Ça, t'aurais pas dû le rappeler, ça. C'est
Oui,
des mauvais
c'est vrai.
souvenirs.
Oublions ce fâcheux incident. Alors, je vais annoncer donc la liste des comics concernés. Il y aura Invincible Iron Man 29 avec une couverture par Salvador La Roca. Il y aura Uncanny X-Men 527 avec une couverture par Sarah Piccelli, que je ne connais absolument pas.
Moi non plus.
Amazing Spider-Man 641 verra une couve par John Tyler Christopher, que je ne connais pas non plus.
Non plus.
Et le Captain America 609, ce sera Mike Perkins, que je connais quand même. Et New Avengers 3, ce sera par John Quinones. Ça me dit quelque chose, je crois qu'on l'a eu, je ne sais plus sur quelle série récemment.
Oula, moi
Enfin
ça me
voilà,
dit
donc
rien.
des couvertures avec des héroïnes Marvel. Donc on a par exemple Emma Frost, Mary Jane, Black Widow et puis d'autres quoi.
D'accord. On essaiera de mettre le lien dans les news
Ouais,
pour que vous puissiez aller voir les covers.
exactement. Et pour terminer avec Marvel, une autre petite news. Au fait, il y aura une petite backup à la fin, en seconde partie de Uncanny X-Men 526, donc un petit truc post-Second Coming, par Alan Enberg et Olivier Coipel.
Ah.
Voilà. Donc cette backup, je ne sais pas exactement quel en sera le sujet. Toujours est-il qu'elle n'était pas annoncée, au fait, à la base, sur les sollicitations. Donc voilà, faut compter avec cette backup en plus dans le Uncanny 526, donc à ne pas rater si on est fan d'Olivier Coipel, bien sûr, Cocorico, quoi. Non, mais enfin, Cocorico, en tout cas, Olivier Coipel, on va pas minimiser non plus son talent, c'est vrai
Non,
qu'il a
bien
fait un
sûr.
bon boulot, hein.
Non, mais c'est vrai que je me demande ce que ça peut donner sur les X-Men, quoi.
Voilà, ce sera en plus intéressant de le voir effectivement bosser sur les X-Men, puisque je pense que c'est la première fois d'ailleurs.
Ah, je voudrais pas m'avancer, je sais pas.
Ah bah non, non en plus je suis bête. Il en a fait sur Uncanny X-Men à l'époque de Claremont.
Ah.
Ah ici, si, il me semble.
C'est possible.
Il y a quelques années, quand c'était X-Men, X-Men Reload, mais comme j'avais effacé ce mauvais souvenir de ma mémoire, je pouvais pas m'en rappeler. Donc voilà. Bah tu, je crois que tu as encore une news, toi, sur oui. Une rumeur.
Oui, alors une rumeur comme quoi, alors c'est tout frais, hein, ça s'est passé en fait sur 2 jours. Une rumeur qui a été démentie aussitôt. Derek Robertson quitte la série The Boys au numéro 43. Un gros coup de gueule de Derek Robertson, je crois, sur son Twitter, comme quoi il en avait marre de The Boys, de dessiner, il en avait marre des délais, etc. Et tout de suite, les fans ont cru qu'il quittait The Boys, ce qui est totalement faux. Ça a été démenti par Derek Robertson lui-même dès le lendemain. En fait, c'est simplement que c'était un jour où il était fatigué, qu'il avait pété les plombs, comme ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Et parce que Dynamite, le contrat, c'était sortir un The Boys tous les mois, quoi qu'il arrive, jamais de retard.
D'accord.
Donc voilà, et il avait du mal avec les délais, puisqu'en ce moment, il est aussi en train de dessiner une mini-série sur Butcher.
En plus, donc, oui, effectivement.
Donc voilà, les journées sont courtes.
Sont longues.
Ouais, ça dépend de quel côté on se place. Lui, en fait. Oui, ouais. et donc, il a du mal à tenir les délais pour la série régulière. Et donc, voilà pourquoi il a pété les plombs. Mais il ne quitte en aucun cas The Boys. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un autre ou des autres dessinateurs pour prendre sa place le temps qu'il termine sa mini-série. Puis, il reviendra sur le titre comme avant. Et il n'est pas question pour lui, en tout cas, de quitter The Boys, ni pour lui, ni pour les gens de Dynamite qui font entièrement confiance au projet, puisque le projet était basé avec lui dès le départ. Donc voilà.
D'accord, donc une rumeur totalement démentie voilà, par l'auteur, tant mieux. Hein, tant
comme
mieux.
Quoi l'internet peut s'enflammer en une journée pour que dalle.
Oui. Et puis bon, ça arrive, comme tu dis à tout le monde, de faire des petites colères, hein, Steve.
Oui.
Avec tout cassé avant de commencer cet enregistrement en disant non, j'en ai marre, j'en peux plus.
Oui, surtout moi, en plus, c'est ça, c'est tout à fait moi. Le ras-le-bol, voilà.
Avec le ras-le-bol incarné.
Ah oui, non, mais bon, voilà, je me cache pas que je suis un gros gueulard.
Très bien, voilà, comme ça au moins c'est dit et les gens savent ce que je subis en rentrée.
Le martyr.
Le martyr, ouais. Envoyez vos dons, hein, pour Comic City et surtout pour moi.
Bientôt la prochaine émission solo Comics Martyr numéro 1.
Voilà, Comics Martyr numéro 1 avec la flagellation du lapin en direct live.
Un bon petit CV.
Bon, et ben, ça y est, la machine à déplacement direct est arrivée aux États-Unis. On peut choper nos comics.
Et voilà, et donc on va commencer notre double review de la semaine avec cette fois-ci encore un numéro anniversaire. Et c'est le Superman 700. Voilà. Et en fait, j'allais dire encore un numéro anniversaire décevant.
Peut-être même plus décevant que le Batman 700 d'ailleurs.
Voilà. Donc, pour faire simple, on va couper la review en trois, en fait, puisqu'il y a trois histoires dans ce numéro. Numéro qui fait 50 pages. Ouais, voilà. Un petit peu, en fait, à l'image de ce qu'était Batman, on a une histoire sur le présent, une histoire sur le passé, puis une histoire sur le futur.
Ouais, sauf que sur Batman, ça faisait une histoire autocontenue, hein.
Voilà, ça, c'était passé, présent, futur. Là, c'est vraiment... C'est vraiment des histoires totalement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
Et par différents auteurs, puisque avec Batman, c'était uniquement Grant Morrison.
Voilà. En comparaison, l'histoire de Batman est presque un chef-d'œuvre en comparaison de ça.
Oui, parce que là, il n'y a rien, quoi, concrètement.
Non,
c'était vraiment
rien,
un numéro 700, comme tu dis, très très décevant dans la mesure où ça n'apporte rien. On peut s'en passer, au fait, ce numéro anniversaire. C'est ça qui est terrible.
Honnêtement, moi, la chose qui m'a le plus plu dans ce numéro, et ça me fait mal de le dire, hein, franchement, ce sont les petites previews de tout ce qui va se passer dans l'univers Superman qui sont à la fin du numéro et donc qui ne concernent même pas la série Superman elle-même.
Ouais.
Mais plutôt Action Comics, Supergirl et Superboy.
On va commencer par le début de toute façon. On en parlera peut-être pour terminer tout à l'heure justement sur ce qui pourrait arriver dans les prochains mois.
Alors, la première histoire, elle est écrite par James Robinson et dessinée et ancrée par Bernard Chang. Ouais. Je te laisse raconter le pitch ou tu veux que je le fasse ?
En fait, grosso modo, c'est simple, hein. Le pitch, il est vite fait. C'est-à-dire que Batman revient.
Non, Superman.
Ça commence bien, tu vois. C'est pour ça que tu fais le pitch souvent.
C'est pas grave.
Donc si Batman revient, mais on ne le voit pas. Voilà. Hein, il était parti à Monoprix et il revient. Mais en attendant, Superman, lui, revient aussi sur Terre après War of the Superman, puisque, comme vous le savez, il y a eu tout un run de James Robinson sur Superman ces derniers mois, avec World of New Krypton, etc. etc. Superman était parti sur Krypton, la nouvelle Krypton, il en est revenu, il y a eu toute une baston, etc. etc.
Ouais, bon, là, Stand of New Krypton, puis suivi de War of the Superman.
Voilà. Bon, là, de toute façon, on oublie tout ça. James Morrison n'a pas été à son meilleur, on va dire.
James Robinson.
C'est ce que j'ai dit.
James Morrison.
Oh, dis donc, c'est bien. Oh, non, aujourd'hui, je suis en forme. Hein. Entre Batman qui revient.
C'est le numéro 700, ça te perturbe.
Eh bien, James Morrison revient. Bon, allez. Donc, James Robinson. Ah là là, James Robinson, donc qui, oui, bah James Robinson, donc a fait des choses sur Superman qui n'ont pas été justement super, quoi. Au fait, bon, on va en reparler sans doute en français prochainement avec New Krypton.
Ou pas. Si ça ne sort pas.
Enfin, normalement, on va en reparler parce que ça va sortir, je crois, en big book.
Disons que l'arc New Krypton va sortir. Voilà. Par contre, je pense pas que toute la saga World of New Krypton sortira en français. Hein.
Non, moi non plus, je ne pense pas. Mais bref, donc, après toutes ces péripéties, de toute façon, qu'importe, Superman revient sur Terre, et là, au fait, bah, on assiste à ses retrouvailles avec Lois Lane. Et Lois Lane est attaquée au début de l'épisode par le Parasite, hein, un ennemi bien connu de Superman.
Qui travaille pour le Trickster.
Voilà, et Superman, bah,
voilà, il la sauve, et puis il arrête les méchants, et puis après, tous les deux, ils sont contents de se retrouver, et voilà.
En gros, c'est ça, voilà. C'est des retrouvailles entre Lois Lane et Superman. Ça fait plusieurs mois qu'ils ne se sont pas vus. Donc, comme un vieux couple, bah voilà, ils sont contents de se retrouver pour les vacances. Et en gros, ils discutent surtout, bah, de ce qu'ils vont faire aussi avec leur fils, puisque on rappelle que Superman a un fils, hein, Christopher. Ouais,
Chris a disparu, donc,
Oui. Voilà. Ce qui aide pas mal les choses, effectivement, dans ce cas-là. Si vous avez des enfants et qu'ils ont disparu, effectivement. C'est pas problématique.
Non mais en fait, ça permet surtout de faire un bilan de tout ce qui s'est passé rapidement. Grosso modo,
pas très rapidement, hein.
Le grand méchant derrière cette guerre, le père de Lois Lane, s'est suicidé.
Ah oui, c'est vrai.
Chris a disparu. Voilà, ouais. Grosso modo où ça en est, et Superman est de retour.
Ouais, enfin voilà, mais en fait, en gros, ça permet surtout de donner un grand coup de balai sur ces derniers mois, et puis de passer à autre chose, quoi, en fait. C'est vraiment un épisode de transition, mais de transition. C'est pas la machine à déplacement direct, mais c'est la transition directe, quoi. C'est-à-dire que on passe vraiment à autre chose et on dit bon bah voilà, James Robinson, c'est terminé.
Et on va passer à autre chose. C'est pas un mal, quoi. C'est con de dire ça, mais c'est pas un mal.
Bah c'est bête parce que sur le papier, en tout cas, moi j'ai été bien intrigué par le pitch de New Krypton. Ça aurait pu être un truc pas mal. Et puis bah finalement, il paraît que c'est pas ça, quoi.
Alors, bah c'est beaucoup trop long et puis bon, c'est pas, non, c'est vraiment pas ça.
Bon, bah, de toute façon, on en reparlera sans doute un de ces jours.
Ou pas, ouais.
On passe peut-être à la seconde histoire, si t'as rien à...
Ouais, non, mais voilà, bon, c'est à peu près 16-17 pages pour rien, quoi.
Pour rien.
Superman et Lois qui se font bisous. Voilà.
Voilà. Non, concrètement, là, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout à en dire.
Ah non, c'est vide, hein.
On passe à Géométrie.
Ouais, la deuxième histoire, Géométrie, donc par Dan Jurgens au scénario et au dessin, et un ancrage de Norm Rapmund. Donc là, c'est l'histoire qui se passe dans le passé. Où finalement Superman arrête des trafiquants d'armes et il entend qu'il y a un plan qui se passe à Gotham. Et donc à Gotham, on retrouve Batman et Robin, mais du passé, donc Batman Bruce Wayne et Robin tout jeune Dick Grayson, qui cherche aussi des informations sur ça. Batman doit aller à une soirée, je crois, avec les membres du comité ou des actionnaires de Wayne Tech, Wayne Corp, je sais plus exactement. Bref.
Wayne Tech, je crois qu'on dit.
Ouais, enfin, je sais plus pour exactement quel truc il se vend, mais bon, il est pas là. Il interdit à Robin de sortir, mais Robin voit que ça bouge au niveau de ce trafic d'armes, et finalement échappe à la surveillance d'Alfred et décide d'intervenir tout seul. Mais ça se passe pas bien, et Superman vient le sauver. Donc voilà, c'est un espèce de petit team-up entre Superman et Robin, qui est franchement sympathique, c'est bourré d'humour, c'est...
Oui, enfin voilà, quoi, c'est vraiment un truc old school, même les dessins d'ailleurs...
Ouais, bah de Dan Jurgens de toute façon, voilà, il y a toujours ce petit côté au-dessus.
Bah il a changé, moi je trouve qu'il a changé son trait considérablement. J'avais l'impression de voir du Mark Bagley par moment.
Oui, bah c'est le trait qu'il a actuellement quand il dessine Booster Gold par exemple, mais
voilà, ouais. Mmh.
Mais moi ça me déplaît pas, au contraire, j'aime bien.
Ah oui, non, moi aussi, franchement, non mais une histoire vraiment sympa, mais bon, le seul hic, c'est que ça se passe que ça se déroule dans le passé, ouais. Comme tu le disais, et donc du coup, bah, ça ne fait pas avancer le schmilblick pour
ça
autant.
Ça n'a aucune incidence, voilà. Bon, il y a le petit côté de Superman qui fait vite fait le devoir de Robin avant que Batman rentre, enfin pendant que Batman a le dos tourné, et puis voilà. Et finalement, Batman découvre la supercherie, il envoie un petit mot à Superman. Voilà, ça m'a fait sourire, c'était, voilà, comme on dit, c'est mignon, quoi.
Oui, voilà, c'est mignon, comme dirait une de mes connaissances.
Moi, ce que j'ai beaucoup bien, enfin, ce que j'ai beaucoup bien aimé, oh là là, c'est beau comme phrase. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce team-up, c'est que ça aurait pu être un team-up Superman-Batman classique, et finalement, c'est Superman-Robin. Et le fait que ce soit pas avec Bruce Wayne, qui actuellement est mort, en tout cas toujours pour le moment, ou disparu, et que ce soit Dick qui soit Batman actuellement, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que ça collait bien avec le moment, en fait.
D'accord, mais est-ce que c'est leur première rencontre ou
Ça se veut être leur première rencontre, parce qu'il lui pose plein de questions. En tout cas, la première rencontre où il est uniquement avec Superman, parce qu'il était peut-être, il a peut-être déjà rencontré avec Batman, sans pour autant que Batman lui laisse poser toutes les questions qu'il veut, quoi. Parce qu'on voit à un moment où il lui pose plein de questions. Ouais, t'as une vision rayon X, comment ça marche? Ben, voilà, quoi.
Oui, moi j'ai eu cette impression en fait, qu'on nous narrait la première rencontre entre les deux. Mais enfin voilà,
C'est
bon,
la,
sans...
je sais pas, la 28e première rencontre depuis les années 40.
Voilà, ouais. Sans compter les Brave and the Bold, les team up, etc. Enfin bon, bref. Mais bon, bah sympa, quoi. Sympa, mais bon, sans plus, quoi. Disons que on pouvait s'en passer aussi, quoi. Dans un numéro 700, ça aurait pu servir comme vraiment comme une petite backup à la fin, mais
Ouais, voilà, c'est ça. Bon, sauf que là, ça fait une quinzaine de pages, quoi.
ça fait une quinzaine de pages et c'est en plein milieu, donc c'est grosso modo l'un des trucs principaux, quoi. Alors que bon, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Si ce n'est qu'à faire plaisir aux anciens fans comme nous qui aimons bien ce type d'histoire, quoi, un peu rétro.
Ouais, voilà, bon, bah, c'est en même temps, ça reste, enfin, ce sera pas une histoire qui restera dans les annales, à mon avis, d'ici 6 mois, je l'aurais peut-être un peu oublié, cette histoire. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir lu, ça m'a fait passer un bon petit moment, ça m'a fait sourire, donc j'en demande pas plus.
Et
Surtout après la déception de Robinson sur la première partie.
ouais. Et par contre, dans 6 mois, donc on sera toujours, à mon avis, sur Grounded.
Oui, l'arc, le nouvel arc de Straczynski, donc on a une prologue dans ce numéro. Donc, scénario de J. Michael Straczynski, au dessin, on a Eddie Barrows et à l'ancrage, J.P. Mayer.
Alors moi je dois te dire que Straczynski sur Superman, je l'attendais comme le Messie.
Ouais, bah ouais, moi aussi.
Là on a le droit vraiment alors à un tout petit apéro, mais alors un amuse-gueule, quoi, vraiment un truc une olive sur du pain, quoi.
Ah, pour moi, c'est une totale déception,
Ah,
honnêtement. J'ai été
moi j'attends,
super
j'attends. En
déçu.
fait, on ne voit rien. Je veux dire, il est même trop tôt pour se dire où est-ce que ça va, quoi, puisque il n'y a rien concrètement là.
Mais le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça 20 fois. Et
Avec Straczynski ou en
non,
règle
non, pas avec
générale?
Straczynski, je parle du concept de l'histoire. Grosso modo, Superman, bah, après cette fameuse War of the Superman, se retrouve à parler devant les journalistes et devant un comité. Il répond, enfin, fait une sorte de conférence de presse, quoi, où les gens lui demandent un petit peu des explications. Se pointe une fille, enfin, une dame classique, quoi, quelqu'un de lambda,
Alors,
qui lui met une grande tarte.
voilà, et alors ça m'a fait penser, je me suis dit, Civil War. Dans
Bah.
Civil War, c'était Tony Stark qui se prenait une grosse baffe, pareil, durant une conférence de presse, d'une mère de famille qui avait perdu ses enfants, je crois, à Stamford. Et c'est dans la première partie de Civil War, et c'est vraiment cette scène, ça m'a fait vraiment penser à ça d'un seul coup. Je me suis dit, putain, c'est la même chose, quoi. Sauf que c'est chez DC, et là c'est Superman qui a merdé, quoi.
Moi, j'ai pas vu ça, tiens, tu vois, mais ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais,
C'est,
effectivement.
pour moi, c'est quasiment même les mêmes planches. Bon, c'est pas le même dessinateur, c'est pas exactement enfin, c'est pas les mêmes images, quoi. Mais je veux dire, ça m'a fait vraiment penser à ça, quoi. Sur le moment, je me suis dit, oula, c'est Civil War bis avec Superman, quoi.
Et donc, grosso modo, cette femme vient se plaindre que, comme il n'était pas là, il a pas pu sauver son mari. Son mari avait une tumeur du cerveau qui a été détectée trop tard, et il en est mort. Et voilà. Et que, grosso modo, avec sa vision rayon X, il aurait pu détecter la rumeur, et avec sa vision
La tumeur, en fait.
thermique, oui, la tumeur, oui. J'ai dit quoi?
La rumeur.
Ah, pardon. Donc, la tumeur,
Décidément.
il aurait pu détecter la tumeur. J'ai failli la refaire cette fois-ci, en plus. Et avec sa vision thermique, la faire disparaître. Donc moi, là, honnêtement, moi, ce que j'ai pensé en lisant ça, je me suis dit, mais d'où c'est le job de Superman? Enfin, je veux bien, c'est un super-héros. Un super-héros doit sauver quelqu'un, quel que soit le problème. Enfin bon.
Non, mais en fait, enfin, je pense que le fin mot de l'histoire, c'était pour dire qu'effectivement, sa vraie place, c'est sur Terre, et il n'a pas à s'occuper de apporter le poids de la galaxie sur ses
Mais
épaules.
voilà, c'est ça.
Voilà. Et
Ouais.
il doit se contenter vraiment de, voilà, c'est le sauveur de la Terre, c'est le protecteur de la Terre, et du coup, ben voilà, quoi, la conclusion, c'est qu'il va revenir à la Terre. Et alors, justement, où va nous emmener Straczynski, ce serait intéressant de le voir. certains reprochaient justement à son tort d'être un peu trop terre à terre, justement, avec ce côté tort qui se font un petit peu dans la masse, qui
en
fréquentent.
Oklahoma, ouais, et compagnie, ouais, mais bon.
Voilà.
Moi j'aimais bien. Là, le problème, c'est que, en fait, la moralité, c'est que c'est ça. Superman doit arrêter d'être autant intergalactique et de s'occuper que de la Terre. Et, grosso modo, en disant que de la Terre, c'est-à-dire que des States. Ben non, je sais pas, moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et franchement, je m'attendais à un prologue qui me donne envie de lire la suite. Et là, j'ai pas super, super envie de lire la suite, à part le fait de savoir que c'est Straczynski qui va être aux commandes et qu'il y aura plus d'autres parties écrites par d'autres.
Donc, bon, faut voir ce que ça va donner, parce que là, franchement, c'est, on a quoi? On a une dizaine de pages. Enfin, voilà. Faut vraiment, moi, je suis quand même, curieux de voir la suite et puis bon, voilà, quoi. Avoir du Superman écrit par Straczynski, c'est quand même un plaisir de le lire, donc,
Au moins, il nous a pas poussé le délire jusqu'à ce que Superman verse sa petite larme, en disant, j'ai pas pu sauver ton mari. Voilà.
Oui.
Mais bon, après, il se rappelle ce que son père lui avait dit, qu'il fallait changer de terre de temps en temps, puis revenir à la terre, voilà, faire tourner les cultures. Et ça finit parce qu'il se pose, il touche le sol de la terre, et il s'en va à pied. Et des enfants qui jouent dans le parc où il s'est posé disent, oh là là, s'il marche, c'est que ça doit être important.
non,
franchement, moi, j'ai trouvé ça presque pitoyable.
Ah non,
j'ai trouvé ça pitoyable.
Oui, mais je trouve que Straczynski a l'art et la manière de trouver les mots justes et quand même c'est bien tourné. Ce serait ridicule si c'était écrit par quelqu'un d'autre, mais là, sous la plume de Straczynski, il rend les trucs les plus, ouais, parfois les plus saugrenus, les plus pitoyables, les plus grotesques, tu vois, il les rend même pratiquement poétiques.
Bah, alors, peut-être que c'était moi qui étais dans un mauvais jour, peut-être aussi que m'être tapé un soi-disant pseudo numéro anniversaire jusque-là et de voir absolument rien.
Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi.
Sur
le numéro.
Ouais. Non, franchement, voilà, moi, le numéro 700, pour moi, c'est une daube.
Oui, bah, écoute, pour moi, c'est un...
C'est un pass.
Ouais. C'est un pass, malheureusement. C'est un pass. Alors, tu disais tout à l'heure, on va peut-être annoncer vite fait
Les sneak
à la
peek,
fin.
Ouais. Ouais. Bah, on a, en fait, chaque scénariste vient nous parler de la série qui a rapport avec le Super Universe sur une page. En nous expliquant ce qui va se passer pendant un an à peu près. Donc on a Action Comics, où la vedette d'Action Comics, ça va être Lex Luthor, qui a goûté au pouvoir après, pendant Blackest Night, et qui, après avoir perdu cette bague orange, finalement décide de retrouver ce pouvoir, parce qu'il a adoré avoir autant de pouvoir. Donc voilà, ça va être lui le centre de la série, d'où le fait que, comme on disait au début, le crossover avec Secret Six, c'est peut-être pas une mauvaise idée, au contraire, et ça se rapproche bien au niveau du thème.
Ah, en tout cas, moi, ça m'intéresse, effectivement.
Voilà, donc ce sera écrit par Paul Cornell. Mmh. On a toujours Sterling Gates aux commandes de Supergirl. Supergirl qui va, justement, devoir continuer sa vie après War of the Superman. Qui va rencontrer une Bizarro Girl.
Ouais.
Aller sur le Bizarro World et devoir sauver un petit peu le Bizarro World. Et puis d'autres choses. Elle va devoir avoir affaire à Cat Grant qui cherche à la descendre. Puis finalement, qui va être obligé de lui demander de l'aide, puisqu'elle reçoit des menaces par courrier. Donc voilà, pas mal de petits trucs. Bon, c'est peut-être la partie la moins intéressante, je trouve, des trois séries, en tout cas. Enfin, on nous parle pas trop de Superman, donc en tout cas des trois séries qui nous sont présentées là. Et puis on a Superboy, pardon, numéro 1 et la suite, qui commencera apparemment en octobre, ou novembre, je sais plus, par Jeff Lemire.
Ouais, Jeff Lemire, donc dont on a parlé, ici déjà, même, puisque. Enfin ici. Dans Comic City en tout cas, puisque c'était The Nobody.
Et puis dont on avait parlé, dont on avait déjà annoncé la prise en main du titre dans un Comics Weekly, oui. Ça va être dans les premiers. Donc voilà, bon, pas grand chose de nouveau annoncé depuis la dernière fois. Toujours ce petit preview d'une dizaine de pages qu'il y aura dans Action Comics 891 ou 892, je ne sais plus.
Assez surprenant d'ailleurs quand même. Enfin,
Moi je sais pas, moi ça m'intéresse pas mal, quoi, et c'est honnêtement la partie qui m'a le plus intéressé de ce Superman 700, donc
c'est quand même gênant, ouais.
C'est franchement gênant, puisqu'en plus ça ne parle même pas de Superman en lui-même, enfin, en tout cas de sa série, donc voilà, bon, pour moi c'est clairement un pass.
D'accord, bah pour moi aussi. Non mais voilà, je suis entièrement d'accord avec toi.
Bien, on continue.
Ouais.
Avec les reviews solo, et c'est toi qui commences cette semaine avec... je te laisse annoncer.
Donc, moi cette semaine, je vais vous parler du Hulk numéro 23. Il s'agit d'une partie à World War Hulks, avec un S. Le scénario est de Jeff Loeb et on retrouve au dessin plein de monde, au fait. Sal Buscema, Ian Churchill, Mike Deodato, Del Keon, John Romita Jr., Tim Sale, Herb Trimpe et Lenny Liu.
Ah ouais, ça fait vraiment du monde.
Ça fait du monde, c'est des gens qui ont marqué en plus le personnage.
Pas tous, ouais, effectivement.
Mike Deodato, Del Keon, on se souvient avec Peter David à l'époque. Ouais. Vraiment plein de monde.
Bah, donc, même Herb Trimpe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est,
Herb Trimpe, puis, ah oui, bah, ça c'est vraiment classique avec les scénarios de Bill Mantlo à l'époque. Mm-hmm. Donc, un épisode assez important, assez intéressant, puisque déjà, moi ce que je voulais surtout savoir, c'est... Alors, on a appris récemment qui était le Red Hulk. Alors, je vais peut-être pas dire, au fait, qui c'est, pour les gens qui ne savent toujours pas. Bon, enfin, s'il y en a encore qui ne savent pas qui est le Red Hulk. là, la question, c'était surtout de savoir comment et pourquoi c'était possible.
Déjà, première question que moi je vais te poser, est-ce qu'on sait tout?
De pourquoi et comment cette personne est le Red Hulk?
Voilà.
Ouais.
On apprend tout dans ce numéro, d'accord, donc au moins on a la complète.
On apprend tout, c'est narré par le Red Hulk, donc c'est une espèce d'épisode au fait qui retrace un petit peu la vie de ce personnage, d'accord, à travers plusieurs époques, à travers des flashbacks, etc. Et chaque partie est dessinée par un dessinateur différent. Donc, par exemple, on a une partie assez ancienne dessinée par Tim Sale. Ça rappelle un petit peu le Hulk Grey dessiné par le Hulk Grey de Jeff Loeb et Tim Sale, justement. Oui. Et c'est vraiment vraiment sympa. Jeff Loeb est vraiment en forme sur ce numéro. Ça m'a fait plaisir de le voir écrire vraiment un bon comics. C'est vraiment un bon numéro. World War Hulk ne semble pas super passionnant jusque là, ça semblait un petit peu même bizarre avec des espèces de Spider-Man, Wolverine, Hulkisé, enfin je sais pas si t'as vu un petit peu ce
pas
que
du
c'était.
Tout. J'ai pas du tout suivi.
Donc voilà, ça semblait être de la grosse baston sans grand intérêt, même si Fall of the Hulks, qui se situe juste avant, avait l'air de bien commencer. Ça s'était un petit peu barré en sucette, et puis là franchement, avec ce numéro explicatif des origines du Red Hulk, c'est vraiment super plaisant. On sent que Jeff Loeb, je sais pas, ça commence, il trouve les bons mots quoi pour narrer son histoire sous les, enfin comment dire, avec la narration donc par la narration de Red Hulk quoi. Et enfin voilà, donc on assiste vraiment à des scènes qui nous expliquent au fait les origines, la création de ce Red Hulk. C'est tout devient compréhensible quoi, je veux dire tout est on comprend vraiment tout ce qui s'est passé, d'incompréhension, c'est vraiment bien amené, c'est sympathique, c'est
est-ce que c'est cohérent au moins?
C'est cohérent,
c'est pas cohérent. C'est pas trop capillotracté quand même,
du tout. Non, au contraire, non, franchement j'ai trouvé ça super sympa. Bah, et puis ces espèces de retours en arrière, donc on assiste par exemple à. Il y a une scène de World War Hulk, premier du nom, donc redessinée par John Romita Jr. Qui est vraiment sympa. Il y a plein de choses. On assiste à la. Enfin, on revoit la scène où meurt par exemple Betty. Mm-hmm. Betty Ross. Ça fait appel à plein de choses du passé, mais à travers des flashbacks par différents dessinateurs qui ont marqué l'histoire de Hulk, tout simplement. Et là, franchement, Jeff Loeb est super inspiré, il est vraiment dans un grand jour, là. Franchement, c'est super plaisant, c'est du bon comics, ça rappelle ses meilleurs travaux. Franchement, je suis impressionné, je m'attendais à, honnêtement, une bouse. Hein je m'étais dit pour expliquer il va vraiment avoir du mal quoi. Et au fait, non, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est nettement l'un de ses meilleurs épisodes, peut-être le meilleur épisode qu'il ait fait sur Hulk jusque-là. Donc au final, ça paye quand même, parce que le Red Hulk, on se disait depuis des années, qui sait, est-ce qu'on va le savoir? Ça commençait vraiment à être long, cette intrigue avec le Red Hulk.
Bah, depuis 23 numéros, quoi.
Ouais, depuis 23 numéros, ça fait deux ans. Ouais. Même plus de deux ans, parce qu'il y avait eu, je crois, quelques retards. Et là, franchement, au final, ça paye quand même, parce qu'on a un numéro vraiment sympa, je trouve, et d'autant plus que, le fait que ce soit dessiné par... des dessinateurs qui ont marqué l'histoire du personnage pour chacun des petits flashbacks, bah, c'est super sympa. Et non, franchement, tout est bon, quoi. Tout est réussi et le Red Hulk devient d'un seul coup bien plus sympathique comme personnage une fois qu'on connaît ses origines. Et franchement, ça m'intéresse de voir où ça va nous mener tout ça, quoi. C'est vraiment un bail, quoi. Cet épisode, vraiment un bail. Même pour réconcilier les gens qui auraient lâché la série en se disant ouais, Jeff Lop sur Hulk, c'est un peu n'importe quoi. Bah là, franchement, checker ce numéro parce que avec le numéro 18 de mémoire, qui était sur le personnage de Samson, bah franchement ce numéro-là c'est l'un des meilleurs, l'un des plus réussis et c'est du bon Jeff Lob. Donc franchement un bail, ouais.
D'accord, bon, bah, c'est bon ça. Au moins ça nous rattrape un peu de ce qu'on vient de lire.
Ah ouais non mais complètement, complètement. Moi c'est ce que j'ai lu en dernier, parce que j'étais pas pressé de le lire, ce Hulk, et honnêtement, waouh quoi, bien quoi. Du bon comics, quoi, du comics comme on aime, avec des révélations un petit peu comme avant, quoi, tu vois, quel était ce super vilain, alors il t'explique son origine, etc. Donc là, non, franchement, c'est vraiment du bon comics, quoi. Ouais. Okay. Très bon épisode, bien inspiré et bien dessiné surtout, puisque voilà, quoi, très intéressant.
Tous des grandes stars quand même.
Tous des grandes stars. C'est pas un numéro anniversaire et pourtant, voilà quoi, vraiment un numéro à ne pas rater. Hein. Franchement,
c'est vrai qu'il aurait pu limite nous faire ça dans un numéro 25 en double size à l'ancienne et voilà, ça aurait été quelque chose d'intéressant. Et finalement, là,
c'est un peu n'importe quoi. Hein. Les parutions de Hulk en ce moment, il y a des numéros hors série, il y a des numéros des one shot un peu à droite à gauche. Il y a des mois où il n'y a pas de Hulk, il n'y a pas d'Incredible Hulk, il y a d'autres trucs qui sortent. Enfin bon, c'est un peu dispersé, et c'est un peu n'importe quoi. Mais franchement, si vous devez acheter un Hulk dans les derniers qui sont sortis, c'est celui-là. Franchement, à checker, et peut-être même que ça va vous réconcilier avec le Hulk de Jeff Lob, donc franchement, le pari est amplement réussi, quoi.
Ok, très bien. On passe au comics suivant, et c'est Zatanna numéro 2. Donc j'avais déjà chroniqué le 1 dans le Comics Weekly numéro 2, je crois, de mémoire.
Peut-être, ouais, mais en tout cas, tu avais apprécié.
J'avais franchement vraiment, vraiment bien aimé le numéro 1, et donc c'est pour ça que j'ai été voir le numéro 2, d'ailleurs. Scénario toujours de Paul Dini, dessin de Stéphane Roux et ancrage de Karl Story. Donc, ça commence avec un team-up entre Zatanna, Black Canary et Vixen contre des espèces de hyènes garous qui attaquent la population et se reproduisent à une vitesse folle.
D'accord, bon, le quotidien de Zatanna, quoi.
Exactement, voilà, des choses un petit peu bizarres. Comme d'habitude, elle les a dit, sauve la situation. Bon, ça dure 3 pages, hein, donc c'est vraiment juste l'intro du numéro. Puis finalement, elle rentre chez elle, complètement crevée, elle veut dormir, et c'est là qu'attaque le personnage qu'on avait vu le mois dernier, qui avait été recruté par Brother Knight, le Great Fuseli, qui est en fait un espèce de monstre de cauchemar.
Patte sur patte.
Moi, c'est une espèce de gobelin, quoi. Voilà.
Tu m'as dit le Great Fuseli,
Fuseli.
Ah d'accord. Ouais. Ah oui d'accord. Non mais moi je voyais une espèce de, tu sais, les fusilis quoi, les espèces de pattes. Oui,
d'accord. Ouais. Non là c'est une espèce de petit gobelin difforme, un petit démon quoi. Donc voilà. Donc il l'attaque dans son sommeil et donc elle est en proie à des cauchemars et il a complètement la main mise sur elle. Ça nous donne en plus lieu à des superbes splash pages de Stéphane Roux qui sont vraiment magnifiques. Franchement. Avec des images en fond, des choses torturées et tout, et franchement, c'est vraiment super beau.
Et Paul Dini, donc toujours...
Ah ouais, il écrit bien. Il sympa. A un ton, par contre, là, cette fois-ci, vraiment, vraiment dark.
D'accord,
c'est,
okay.
Ah ouais, c'est à la limite d'être glauque, hein, quand même. On sentait déjà un petit peu cette ambiance dans le premier, mais alors là, on rentre dedans à fond, quoi.
En tout cas, toujours autant inspiré par ce personnage.
Ouais, il l'a bien. Franchement, il l'a vraiment bien.
Voilà.
Pendant qu'elle est...
Il la tient bien.
Je ne réagirai pas à tes allusions.
Non, bien sûr. Ça fait des années en plus qu'il l'a dans le viseur, Paul Dini, on est tous.
C'est bon, maintenant Zatanna. Qu'il l'a, il va plus la lâcher.
Ah mais moi j'aime bien Zatanna. Hein. Bon, enfin voilà.
Surtout, donc, surtout
est si vous êtes une Zatanna.
On a du mal aujourd'hui.
Vous êtes une sosie de Zatanna, eh bien envoyez vos mails aussi à Comic City. Je vais en faire.
On transmettra qui de droit. Hein.
Et bien sûr.
Donc pendant que Zatanna est prise dans ses cauchemars, l'inspecteur dont j'ai totalement oublié le nom d'ailleurs.
Eh ben c'est un très beau nom pour cet inspecteur.
Qui avait justement fait appel à Zatanna dans le dernier numéro pour résoudre un petit peu les meurtres qui avaient été faits. Mmh. est de nouveau visité par Brother Knight, qui lui dit que bon, de toute façon, voilà, il peut rien y faire et qu'il va prendre. Il a déjà pris le contrôle de toutes les forces magiques de San Francisco et maintenant il va s'attaquer gentiment à tout ce qui est mafia et va régner sur la ville puisque maintenant ça va être sa ville. Point.
D'accord.
Donc il décide de prévenir Zatanna et c'est ce qui lui permet de s'échapper du monde des cauchemars de Fuseli et en prof... et disons qu'elle pour se venger de ce qu'il lui a fait, elle le disperse dans tous les gens qui sont en train de dormir aux alentours. Et il a vraiment du mal à garder sa forme puisque bah il peut rentrer et manipuler les cauchemars d'une deux personnes mais de toutes ces personnes en même temps, il perd son corps en fait. Et, il est à la limite de disparaître pour toujours. Bon, bien sûr, elle ne le tue pas, mais elle lui réserve un sort encore pire, c'est-à-dire être enfermé dans son chapeau. Désolé pour l'image, mais tel un petit lapin dans le chapeau d'un magicien.
Oh, mais moi, j'aimerais bien être enfermé dans le chapeau de Zatanna. Hein. ou ailleurs. Bon, allez, on va arrêter avec ces trucs cabreux. À moins que tu aies des choses à raconter.
Surtout la dernière page, qui est une révélation monstrueuse, puisque Brother Knight s'attendait à ce que Zatanna échappe, mais avec autant de... pas de facilité, mais presque. Et du coup, il décide de faire elle à quelqu'un qui l'a en son pouvoir, ouais. Et qui va être un choc pour Zatanna. Mais je n'en dirai pas plus. Et franchement... j'attends de voir. Ça risque d'être très, 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 très bon.
Donc, à la suite.
Donc voilà. Un super épisode qui, pour moi, est un bail. Comme le premier.
Oui, comme le premier. De toute façon, à mon avis, là, on est parti pour une bonne série avec Zatanna. Voilà.
Exactement.
Eh bien, on continue sur une série vraiment pas mal. Étonnamment, d'ailleurs. Puisque c'est Avengers numéro 2. Donc, du volume
4.
volume 4, déjà.
Eh oui.
Eh ouais, bon bah voilà. Bon alors donc le volume 4, on s'en fout du volume d'ailleurs, puisque finalement, c'est le Avengers actuel, évidemment. Le numéro 2, donc c'est toujours Brian Michael Bendis au scénario et John Romita Jr. au dessin. Donc la dernière fois, il s'était passé pas mal de choses. On avait fait la double review, les Avengers devaient faire face à Kang, ou plutôt devaient le croire lorsque Kang leur annonçait que le futur était apocalyptique et que leurs enfants c'était des sales gosses. Grosso modo, pour résumer.
Comme ça, oui, c'est très très bien.
Voilà, c'est très très bien. Et là, ça commence sur les chapeaux de roue, puisque dès les premières pages, recrutement d'un nouveau membre.
Uh-huh.
Il s'agit de Novar, le Marvel Boy, l'ex-Marvel Boy, puisque là, au fait, il dit qu'on doit l'appeler Protector.
Putain, ça pue comme nom.
Oui, t'as vu, hein, c'est quand même assez terrible. Hein. Donc voilà, recrutement de ce nouveau membre, à voir donc ce qui va donner parmi les Avengers, mais en tout cas l'équipe devient de plus en plus, un melting pot de super-héros quand même assez balèze, quoi.
Oui, en fait, ils ont surtout besoin de lui. Univers assez différent quand même.
Ouais, mais ils ont surtout besoin de lui pour construire cette fameuse machine à voyager dans le temps. Rappelle-toi, puisque les Fantastic Four sont absents, donc. Pendant que les Fantastic Four ne sont pas là, faut construire sa machine soi-même. Et alors donc, on assiste aussi à une scène, où on voit le nouveau Captain America, donc Bucky, discuter avec Maria Hill, et c'est assez marrant parce qu'on se rend compte que le mec ne sait pas du tout qui est Kang, au fait.
Bah oui, forcément.
Parce que ce nouveau Captain America, il a loupé tellement d'années de Avengers, il ne les a pas lus.
C'est Captain America, il pourrait aller chez Marvel, il lui filerait gratos, je suis sûr.
Voilà, donc pour le moment il n'en a pas l'idée. Et c'est Maria Hill qui lui fait le pitch. Donc il y a toujours des dialogues assez drôles. On les retrouve ensuite affairés à la construction de cette fameuse machine à voyager dans le temps. Alors là, John Romita Jr. peut se faire plaisir, tu sais qu'il adore faire des machines avec des espèces d'électrodes, de fils dans tous les sens. Donc là il y a une superbe splash page. Enfin, je dis superbe, mais c'est pour rigoler parce que bon, elle est pas extraordinaire non plus, mais on voit cette espèce d'énorme machine. D'ailleurs, c'est assez ridicule puisque c'est une machine tellement énorme qu'on se demande comment ils peuvent la construire en si peu de temps. Mais bon, c'est des génies.
Et c'est des super héros surtout. Ils sont trop balèzes.
C'est des super héros et donc ils la mettent en route. Et alors là, ça devient assez intéressant puisque quand ils la mettent en route, ils ont un aperçu des différents univers parallèles et on voit notamment. Alors là, c'est quand même pas mal du tout. On voit l'univers MC2, tu sais, avec Spider-Girl et les Avengers Next.
Ouais.
On voit l'univers, par exemple, de Days of Future Past.
Ouais.
avec Wolverine qui affronte des sentinelles. Mmh. On voit plein d'univers parallèles et on voit donc ce qui semble être l'univers concerné avec l'espèce de vieux Hulk là.
Oui, on en apprend un petit peu plus sur lui d'ailleurs ou pas?
Pas dans ce numéro. Ah. Il se passe énormément de choses dans ce numéro. Donc je vais continuer. Donc là c'est assez sympa de voir cet univers parallèle, etc. Puis il commente un petit peu tout et il voit notamment donc l'univers où ils doivent se rendre avec leurs enfants, enfin leurs supposés enfants. Et donc après ils y vont tous de leurs commentaires, tu vois, qui est le fils de qui, ah tiens lui il a une sale tête, j'espère que c'est pas mon fils, enfin des trucs comme ça quoi, tu vois. Et c'est assez drôle et donc là encore une fois Bendis se fait plaisir à travers des dialogues assez assez marrants quoi, comme il a l'habitude de le faire. Et malheureusement, leur séance de visionnage des univers parallèles de surveillance est troublée par l'arrivée de, comme annoncé sur la couverture, de Wonder Man. D'accord. Wonder Man qui est furieux, qui voulait absolument pas qu'ils construisent une nouvelle équipe de Avengers. Donc on sait pas trop pourquoi ils pètent les plombs à ce point-là, mais en tout cas, il leur fait du rentre-dedans. Il y a une espèce de baston qui s'engage entre les Avengers et Wonder Man. Donc voilà, donc il file un mauvais coton, et d'ailleurs Tony Stark, très justement, rappelle à ses troupes que il veut pas que ça fasse comme avec Sentry ou comme avec Wanda, que ça... Enfin voilà, quoi, il a l'impression que Wonder Man est vraiment... prêt à totalement péter les plombs, donc il va falloir qu'ils essayent de le raisonner quoi. Mais le comics avant qu'ils puissent donc rattraper Wonder Man se termine sur l'arrivée de personnages totalement incroyables, quoi. On s'attend pas du tout à les voir débarquer là. Ils viennent d'une autre dimension à cause de la machine qui se détraque. Et donc voilà, donc des personnages, enfin une espèce d'équipe de vilains, on va dire, arrivent à la fin. Et je ne te dirai pas qui ils sont, mais voilà, ils sortent de la machine à dimension, quoi. Et c'est c'est surprise, quoi. Enfin, je veux dire, on s'attendait pas à les voir débarquer là. Donc vraiment, il se passe énormément de choses, encore une fois, dans cet épisode. C'est assez étonnant parce que contrairement à New Avengers, où c'est très décompressé, tu vois. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochains, mais ça a l'air toujours aussi décompressé. Là, dans Avengers, en deux numéros, il se passe tellement de choses que c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a des surprises, il y a des rebondissements, plein de choses.
Donc, j'ai quand même l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens et que ce plot principal n'avance pas, quoi.
Oui et non quoi, parce que quand même là ils ont déjà leur machine, ils vont peut-être la mettre en route dès le prochain épisode. Mais surtout, non, mais enfin, il y a quand même pas mal d'intrigues secondaires très intéressantes qui se mettent en place.
Ah, je dis pas que c'est inintéressant, je dis juste que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, en fait.
Bah ouais, on a aussi un peu cette impression, parce qu'il y en a vraiment beaucoup en deux épisodes, mais en tout cas, la fin est assez... ça m'a vraiment surpris, j'ai fait, oula, il y a eux qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est vraiment inattendu, quoi. Voilà, c'est ça, d'accord. C'est le mot, inattendu. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment la série sur laquelle... je trouve ça super intéressant d'avoir un titre où au fur et à mesure des pages on peut même pas deviner ce qui va se passer, quoi. C'est totalement Bendis se lâche et quand il se lâche et qu'il décide de faire un truc avec pas du tout décompressé, quoi, bah c'est vraiment pas mal. Et ça rappelle vraiment les Avengers d'antan où il se passait beaucoup de choses, quoi. Enfin voilà quoi, c'est vraiment de l'aventure, de l'action, plein les pages. D'accord, donc c'est un bail, ouais. C'est un bail, quoi. Franchement, c'est bon.
Ok, bah, c'est bien, on a des séries qui commencent bien et se continuent bien, en tout cas Avengers, Zatanna, donc c'est une bonne chose.
Ouais, c'est bon signe, quoi.
Espérons que ça continue comme ça. Ok, on passe à la dernière, bon, tu avais quelque chose à rajouter peut-être?
Ah non, du tout, non, vas-y.
Ok, donc on passe à la dernière review de cette semaine, c'est le Green Arrow numéro 1, volume 5, si je ne me trompe pas. J'ai un peu perdu le compte là quand même, pour être honnête. Scénario de J.T. Krull, dessin de Dionysius Nivis et ancrage de Vicente Cifuentes.
Zarazu. Oui, d'accord.
Donc, Green Arrow repart encore une fois un relaunch. Et alors là, honnêtement, autant on avait pu la semaine dernière dire que New Avengers, le relaunch, n'était absolument pas nécessaire, autant là, le titre part dans une direction totalement différente de ce qui avait pu être fait sur la dernière série, même la série encore avant. Donc là au moins relaunch, c'est pas pour rien.
D'accord. Donc,
les derniers événements, c'était que Green Arrow avait tué je viens d'oublier son nom à l'instant, je crois que c'était Prometheus ou quelque chose comme ça, qui avait en fait tué la fille de Arsenal et lui avait coupé le bras en même temps.
Voilà, là tu balances les spoilers, mais en même temps c'est pas grave puisque
bah, c'est des spoilers qui datent d'il y a 2-3-4 mois. Donc,
oui, non, mais enfin, je veux dire, on aura pas ça en français de toute façon en plus.
Voilà, donc, de toute façon. Et puis bon, si vous écoutez la VO, faut bien être conscient qu'il y aura des spoilers par rapport à la
faut
France.
Bien se mouiller, hein, par moment. Bon,
on pourra pas éviter tous les spoilers, c'est pas possible. Donc Green Arrow était poursuivi par les membres de la JLA parce qu'il leur avait caché. Il a finalement été arrêté, bon voilà, il en est sorti, et Star City a été complètement détruite, et à cette espèce de forêt en forme d'étoile qui a poussé en plein milieu, avec des dizaines de milliers de morts. Et ben là, on a un titre qui est excessivement sombre, c'est vraiment de la noirceur, quoi. Green Arrow a totalement changé, il est caché dans cette forêt, puisque bah, son identité a été révélée à tous, ce qui fait qu'il n'est plus du tout Oliver Queen, il est uniquement Green Arrow.
Ah oui, il nous fait le trip comme l'araignée il y a quelques années, quoi. Je suis Spider-Man.
De même que bon, ça a été fait par pas mal de
je n'enlèverai plus mon costume, je ne prendrai plus de douche.
Mais là, de toute façon, Oliver Queen étant recherché pour meurtre, puisque de toute façon, que Green Arrow est tué ou que ce soit Oliver Queen, c'est la même chose. Ouais. Pourquoi rester Oliver Queen alors que il en a pas besoin, quoi. Dans la forêt, voilà. Donc ça commence avec une scène assez classique, somme toute, une damoiselle poursuivie par quelques loupards qui veulent la violer.
Ce qu'on a vu dans les previews, au fait.
Exactement, c'est exactement la scène qu'on a vu dans les previews.
Mais ça a l'air assez violent, du coup.
C'est assez violent, effectivement. On a quand même un Green Arrow qui décoche une flèche arrachant l'anneau et le bout de nez d'un des violeurs, au passage. Bon, voilà, il n'hésite pas à aller plaquer au sol à coups de flèche dans les épaules, dans les mains. Enfin, bon, en même temps, enfin, faut être honnête, quoi. Un mec qui chasse à l'arc, ça fait des dégâts.
Évidemment.
Donc, il assaut, il explique justement, en fait, après, lui... Enfin, Green Arrow et cette femme partent, ils la raccompagnent hors de la forêt tranquillement, et pendant qu'ils la raccompagnent, ils discutent, et ça permet de mettre à peu tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on nous refait un petit récapitulatif, mais c'est bien amené, hein, ça fait pas trop lourd en fait. C'est pas genre, ah voilà, il s'est passé ça, il s'est passé de ça. C'est au fond de la discussion, on comprend pas le chose. Notamment, cette forêt est très 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 bizarre, elle fait que de changer. Donc on peut totalement se perdre dedans parce que bah on a l'impression d'être à un endroit alors qu'en fait on n'est pas du tout au même endroit qu'on croyait être. Enfin voilà, tout change en permanence. On apprend que le maire et le commissaire de Star City sont totalement pourris et corrompus et travaillent main dans la main pour faire tomber Oliver Queen, enfin en tout cas essayer de l'attraper.
Mais donc, Oliver Queen n'avait pas essayé d'être maire à un moment donné.
Ah ben si, mais depuis qu'il a été accusé de meurtre, bah, il a été totalement révoqué.
Évidemment, bah, bien sûr.
Puisque de toute façon, il a même été en tôle, donc voilà. Oui. Enfin, il a été, voilà, tout de suite, tout est parti, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est que Green Arrow est devenu. Déjà, il a changé de costume. Il a de nouveau la capuche, comme il y avait eu à l'époque Mike Grell dans les années 80-90.
Oui.
Et il est clairement devenu un Robin des Bois. Il se cache dans la forêt. On a une scène notamment où il vole aux riches pour donner aux pauvres et puisque bah, la ville est ravagée, un petit peu comme Gotham l'avait été à l'époque du tremblement de terre. Ouais. C'est un petit peu la même situation, c'est-à-dire que bah, les gens vivent dans des camps, ils n'ont pas forcément à manger, etc. Et le maire et le commissaire donnent une soirée de charité pour récolter des fonds, pour aider la population, etc. Mais bien sûr, on se gave de hors-d'œuvre au saumon et compagnie, quoi.
Ah, bien sûr, hein. Hein,
voilà.
Ils sont contents, hein. Voilà, bah, qu'ils le
fassent. Et donc on a un journaliste. Qui fait un peu office de fouille-merde en quelque sorte, puisqu'il a posé des questions qui dérangent Homer, notamment, oui, mais cette soirée, elle est organisée par les taxes, quoi, des habitants. Elle est pas payée comme ça. Enfin bon, et voilà, bien sûr, le maire ne répond pas, donc voilà, on sent que c'est un personnage qui va venir. Effectivement, ça percevra plus tard dans le comic que c'est un... En tout cas, il a des informations qui lui sont données par Green Arrow pour être au bon endroit au bon moment pour faire mon scoop.
D'accord.
Et essayer de faire tomber le pouvoir.
C'est un petit peu le Jimmy Olsen de Green Arrow, quoi.
Ouais, voilà, ou le Ben Urich en fait.
D'accord, ok. Ouais.
Plutôt même Ben Urich, puisque c'est un petit côté j'aime pas le pouvoir en place et je descends, quoi.
D'accord.
Un petit peu ce que Ben Urich fait avec Norman Osborn actuellement dans le Dark Reign. Enfin, maintenant c'est fini, en tout cas en VO, mais en France. Donc voilà. D'un autre côté, les industries Queen sont reprises et rachetées par une Russe nommée Isabelle Rotcheff. Qui est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. On dirait quelqu'un sorti d'un comic de Grant Morrison.
Je croyais que t'allais dire qu'elle était vraiment, 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 vraiment bonne.
Ben en fait, on peut même pas savoir, parce qu'elle s'habille avec des grandes robes. Elle est complètement masquée de... Enfin, même ses mains sont gantées de cuir, on voit rien. Et son visage, elle a un truc en cuir devant. une espèce de voile en cuir et on voit absolument pas sa tête. Ce serait franchement un personnage écrit par Morrison que ce serait pas étonnant.
D'accord.
C'est voilà, et c'est quelqu'un qui décide de redonner à Queen Industries sa gloire d'antan avant qu'Oliver Queen la prenne, c'est-à-dire revenir sur les contrats des marchés d'armes et compagnie.
D'accord, mais alors tu penses que c'est quelqu'un du passé de Green Arrow alors? Non,
peut-être, ou peut-être est-ce quelqu'un de nouveau, puisque de toute façon il y a une volonté pour J.T. Krull, il l'a annoncé, de donner vraiment un cast de vilains propre à Green Arrow.
D'accord.
Parce que finalement, ces dernières années, les meilleures histoires ont été qu'avec des vilains qui appartenaient à d'autres personnages, comme par exemple The Riddler, entre autres. Donc voilà, il n'a pas vraiment des vilains à lui, des super vilains à lui. Donc là, ils essayent de faire en sorte que ce soit ça. Donc, comme je disais, Green Arrow est devenu un Robin Hood, il va dérober la bouffe de cette soirée de charité pour la donner aux pauvres. Et il y a vraiment plus ce ton, comme il était toujours en train de faire des petites blagues, etc. Il est vraiment renfermé sur lui-même, morose. Il y a vraiment eu un changement dans le personnage.
Oui, c'est un petit peu le Dark Knight version Miller, quoi.
Ouais. Franchement, ouais, c'est vraiment très très sombre. Et c'est un bon tournant, je trouve, pour le personnage. Parce que de toute façon, là où il en était, ça pouvait pas redevenir joyeux et tout est beau, tout est joli, quoi.
Ouais, d'accord. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant.
Oui. Le maire se fait assassiner en pleine rue, on ne sait pas par qui. Donc, bien sûr, tout le monde commence à... Non, pardon, pas le maire, c'est le commissaire qui se fait assassiner.
D'accord.
Et le maire, bien sûr, pense que c'est Green Arrow qui l'aurait assassiné, puisque c'est quelqu'un qui était déguisé. Apparemment, ce serait pas lui. On ne sait pas, même nous lecteurs, nous ne savons pas si c'est lui ou pas, mais il y a de fortes chances que ce soit pas Green Arrow, c'est pas un tueur, parce qu'en plus, il attaque au couteau, donc bon. Mais en pleine rue, hein, devant tout le monde, c'est quand même assez violent. Et à la fin de l'épisode, Green Lantern arrive dans la forêt, et à peine il entre dans cette forêt, sa bague cesse de fonctionner.
Ok.
Et il se retrouve face à Naro et sans pouvoir. Et le truc s'arrête comme ça. On nous fait un petit teasing aussi des choses à venir, et là on continue sur le concept Robin des Bois pour Green Arrow, c'est-à-dire que Green Arrow va se former une petite bande de Merry Men. Donc petit peu à la Frère Tuck et Petit Jean...
D'accord, ok.
Voilà, mais on ne les voit pas, on les voit qu'en ombre, on ne sait pas du tout qui c'est. Mais voilà,
oui, d'accord.
Franchement,
qui
le
sera
titre,
Petit Jean.
Voilà, le titre a l'air vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Les dessins de Jeugenis Nivez sont vraiment bons, même si sur quelques cases assez inégaux, on sent qu'il a dû se rusher un petit peu pour se terminer cet épisode. C'est un double épisode qui est au prix que de 3,99, contrairement au Superman 700 qui est quand même à 5,99, je crois, de mémoire. Bon d'accord, il fait un petit peu moins de pages, c'est certain que le Superman qui en fait une soixantaine, celui-ci n'en fait qu'une quarantaine, mais j'ai passé un sacré meilleur moment avec Green Arrow en payant moins cher qu'avec Superman en payant plus cher.
D'accord.
Donc voilà, donc pour moi c'est définitivement un bail. À rajouter que les covers par Mauro Cascioli sont superbes. Autant la cover de ce premier numéro, pas la variante qui n'est pas faite par lui, mais la cover de ce numéro et les covers à venir sont vraiment magnifiques.
D'accord, bon, en tout cas, ça donne envie de s'y intéresser.
Moi, franchement, j'attends de lire la suite avec impatience, parce que là, il y a vraiment eu un virage dans cette série.
Ok, très bien. Puis bon, en plus, c'est le moment de commencer à s'intéresser à ce personnage, vu que c'est le premier numéro, donc il n'y a pas de raison de ne pas le prendre.
Disons que même si Green Arrow avait subi des changements radicaux ces derniers mois qui n'étaient pas toujours super justifiés, en tout cas, là, les changements sont cohérents avec ce qu'on a lu ces derniers mois, et ça donne vraiment une bonne ambiance au titre.
En tout cas, si c'était pour en arriver là, tant mieux.
Oui, voilà, ça valait le coup, quoi.
Voilà, ça valait le coup quand même. Au final,
vous l'aurez compris, c'est définitivement un bail, en tout cas à mon avis, quoi. Bien, voilà, c'est tout pour cette semaine. On a largement débordé sur le temps.
Et par contre, la semaine prochaine,
il n'y aura pas de Comics Weekly parce que nos emplois du temps, malheureusement, nos emplois du temps sont vraiment trop serrés. On n'arrivera pas à se bloquer à un moment pour pouvoir enregistrer. Donc pas de Comics Weekly la semaine prochaine, mais il y en aura bien sûr la semaine suivante. On fera peut-être une émission un petit peu plus longue pour la prochaine justement, où on prendra peut-être un comic de la semaine à venir qui nous aura marqué et dont on parlera rapidement.
Voilà.
Pour ne pas laisser toutes les sorties de la semaine prochaine sans review.
Exactement, ouais.
Voilà. Puis bon, des back issues de la semaine précédente sont pas trop trop durs à trouver, donc si jamais vous n'aviez rien pris et que nos reviews vous donnent envie, vous pourrez toujours vous les procurer facilement.
Cela dit, dans les prochains jours, normalement la sortie d'un spécial.
Le spécial qui arrive normalement, si tout va bien, en début de semaine prochaine, au moment où vous écouterez ça, si vous l'écoutez le jour de la sortie, le Comics Weekly bien sûr, et plus bien sûr le Comic City numéro 34 qui sortira le 1er juillet, normalement, si tout va bien.
Ben voilà.
Voilà, c'est donc tout pour cette semaine. Comme toujours, vous avez les commentaires. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous dire ce que vous avez pensé, vous aussi, des parutions. Comme même si vous avez lu d'autres titres qui sont sortis cette semaine et que nous n'avons pas abordé, puisque on peut pas tous les aborder, n'hésitez pas à venir nous donner votre avis. Parce que même si on lit ça pour le podcast, on ne lit pas que ça pour la semaine. On en lit d'autres et on essaye de sélectionner des choses.
Oui, et puis si vous avez envie qu'on traite de telle ou telle série, faites-le nous savoir, on verra si effectivement on en parle dans Comics Weekly ou pas, quoi. Enfin voilà. Si vous avez des préférences, faites-le nous savoir aussi.
Exactement. Vous pouvez aussi nous laisser nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. On répondra si c'est une question. De toute façon, tous les mails sont lus, de même que tous les commentaires, même si on ne répond pas tout de suite, tout est lu, bien sûr, sans aucune
avec faute. Minutie, mot par mot, on étudie même, on regarde si le COD est bien placé.
Donc tu risques de faire peur aux gens, disant ça.
Oui, non, évidemment.
Et puis, bah, comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, vous avez de toute façon les liens sur la page du site, les liens pour Facebook et Twitter, et bien sûr sur iTunes, vous récupérez tous les podcasts. Anciens et puis bien sûr les derniers. Voilà. Je crois que là c'est tout pour cette semaine, hein, vraiment.
On peut pas faire plus, non, là c'est fini, là, je pense.
Oui, là, voilà. Puis en plus on a bien dépassé le temps, encore une fois. On a du mal avec le temps.
Oui.
Mais on se laisse emporter, puis voilà.
Et ben voilà. Voilà où ça va.
On se laisse emporter par la machine à déplacement direct.
Ouais. Bah, tu ça va, hein. Elle a bien fonctionné aujourd'hui, je trouve.
Ouais, enfin. Tant qu'elle nous laisse pas planter là-bas, c'est bon.
Oui, voilà, c'est ça. Donc le temps qu'on revienne, on vous dit. Bah, pas la semaine prochaine du coup, dans deux semaines. Mais tout de même à plus tôt avec les autres émissions. Voilà, comme ça c'est super clair.
Voilà,
quelle fin formidable.
On se comprend tout à fait. Donc à dans 15 jours, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Ciao.